dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Je ne dis pas que je suis pour le loup, je dis pas que c'est facile de vivre avec, pas du tout. Je dis seulement que, de toute façon, ici, sur notre zone ici, et même en France, et même en Europe, il faut pas rêver, il y aura jamais une prise de décision d'éradication. Ça, il faut que les éleveurs l'entendent. Du coup, le loup, il faudra bien cohabiter avec. Et c'est là-dessus que part la réflexion. Il faut bien comprendre que nous ici, on ne veut pas éradiquer le loup, mais par contre, on est là pour la défense des paysans et le fait qu'ils puissent vivre.
Aujourd'hui, Dissonance tend son micro à Renaud David, éleveur à la Maxane, sur le Cosmejan, en Lozère, entre Aigoual et Gorge du Tarn. Arrivé sur le Cos après avoir bourlingué pendant près de 6 ans en tant que berger à l'année sur les hauts plateaux du Vercors et sur les alpages du Var et des Alpes-Maritimes, il s'installe en tant qu'éleveur de brebis et de chèvres, tout en cohérence avec ses idéaux de paysan mais aussi avec sa vision du loup. Car le loup, il connaît. Il a été confronté à ses attaques et a toujours travaillé et tenté de cohabiter avec lui en le tenant à distance. Dans Dissonance de ce mois-ci, Renaud David nous fait entendre un discours apaisé, mais réaliste sur la cohabitation avec le loup. Dans Dissonance de ce mois-ci, il sera question de la défense du monde paysan confronté à la prédation.
Une fois, j'ai été attaqué, et ce jour-là, j'y suis allé plus tard que d'habitude, et je m'étais fait attaquer déjà. Il m'en avait chopé 10.
La première chose qui ressort, c'est ça dans les discours. Qu'on ait simplement vu le loup, qu'on ait cru l'avoir vu, qu'on ait été attaqué réellement. Le niveau du discours est tout de suite extrême. Parce que c'est quelque chose qui dépasse.
The wolf has a right to exist.
Les loups ont le droit d'exister.
And it has a right to be protected.
Et ils ont le droit d'être protégés.
C'est donc les troupeaux qui correspondent le mieux à une agriculture souhaitée par le consommateur qui sont attaqués. Consommateur qui te dit, vous pouvez avoir le loup. Comment on s'en sort de cet imbroglio?
On peut considérer qu'à 5 km de lui, il sent et il entend tout ce qui se passe.
Et en fait, tout ça, on ne fait pas notre vrai métier. Notre vrai métier,
en 2012, le loup arrive en Lozère. Comme quand il était berger, Renaud David va continuer à essayer de travailler tout en cohabitant avec le Canis lupus. Mais cohabiter ne signifie en rien le magnifier, non, non. Car, comme l'avait dit précédemment dans une autre émission de Dissonance, le photographe animalier Renaud d'Angreville, ne pas faire la guerre au loup n'empêche pas de rentrer en conflit avec lui. Écoutons Renaud d'Angreville.
On sait que sur la Lozère, que j'habite et que j'aime, les chasseurs tuent 8000 chevreuils dans l'année, 10000 sangliers dans l'année, je parle. Si là-dessus, on en laissait au moins un tiers, le loup pourrait et vivre et survivre et ne pas attaquer les brebis. Donc vous voyez, toujours dans cet équilibre, quoi. Le loup, il a sa place. Pour moi, il a sa place dans la nature. Le partage avec le loup a toujours été conflictuel. Toujours. Parce que, il devait manger les proies que chassaient les hommes à l'époque. Et on en est toujours là. Mais en même temps, le conflit, c'est pas la guerre. Le conflit, c'est quelque chose qui se gère, qui se raisonne. Et puis, c'est un partage. Le conflit, c'est un partage d'idées. Un partage de viande, un partage de territoire, toujours un partage de conflit. Faut pas le prendre comme la guerre, quoi. Différent.
Dissonance avec Renaud David.
Salut Renaud.
Bonjour.
Alors on est ici à la Maxane, sur le, en bordure du Cosmégean, au-dessus des gorges du Tarn. Tu es éleveur de brebis.
J'ai été élevé à la campagne jusqu'à mes 10 ans. Après j'ai vécu à Saint-Étienne, dans la Loire, donc grosse ville. Et à partir de l'adolescence, j'ai hésité tout le temps entre faire du social, du médical, comme ma mère, ou faire de l'écologie, quoi. Et du coup, j'ai fait un BTS gestion et protection de la nature, un BTS GPN, axé sur la gestion de l'environnement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a eu un module d'initiation au pastoralisme. Et en fait, j'ai trouvé que le métier de berger, c'était gérer au mieux un espace très restreint, avec l'ouverture sur les gens, sur la nature, enfin sur les autres utilisateurs du territoire, et ça m'a vraiment plu. Et donc du coup, à partir de 24 ans, je suis parti à fond dans le métier de berger. Et au bout de 4 ans et demi, j'ai commencé à monter un troupeau en tant que berger. J'ai monté un troupeau de 25 brebis et 25 chèvres sur quelques années, voilà, pour au moins avoir mes bêtes, pour m'impliquer un peu plus. Et puis après, avec d'autres potes bergers, on a commencé à réfléchir à franchir le cap, à s'installer, mais à s'installer dans un système pastoral extensif. L'éducation que j'ai eue par les anciens, c'est ça, quoi. C'est des brebis, c'est fait pour vivre dehors, c'est fait pour manger de l'herbe, à la rigueur un peu de grain quand elles ont l'agneau, et encore pas trop. C'est cette notion-là qui m'a amené à vouloir franchir le cap, et jusqu'à arriver en Lozère. Et en Lozère, voilà, on a découvert cette ferme-là, qui correspond à pas mal de mes attentes, mais j'avais conscience, c'était une ferme très 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 pauvre, point de vue ressources de la terre, qui avait un climat très spécial, et c'est ça aussi qui m'a plu, quoi. C'est d'être confronté vraiment de façon brute à la nature, et d'essayer de m'installer sur un milieu comme ça, quoi. J'ai fait des études d'écologie, j'ai fait assez poussé, donc du coup, forcément, j'aime la nature, j'aime les animaux, j'aime ce rapport-là. Mais n'empêche que comme d'entrée j'ai toujours été confronté au loup, en fait j'ai connu le métier de berger avec le loup. Donc j'ai travaillé chez des éleveurs qui cohabitaient avec le loup dans le Var depuis 30 ans. Donc pour eux c'était des choses. Enfin le Var c'est le premier endroit où il y a eu les loups qui sont arrivés. À Canjuers ils sont arrivés en 88. Donc moi j'ai bossé à Canjuers en 2006, 7, 8, 9, 10. Ça faisait 25 ans qu'ils étaient confrontés au loup. Donc ils avaient mis en place, il y avait les bergers, il y avait les patous, il y avait les fils électriques. Ça enlève absolument pas le risque de se faire attaquer. Mais en tout cas, le fait que les brebis, la nuit, soient en fil électrique, avec des chiens de protection, que nous, on dorme à côté, proche, déjà, on peut dormir la nuit, on est reposé, parce qu'on sait que les brebis sont protégées. Par contre, quand on les sort le matin, ou juste avant de les rentrer, quand on est en zone boisée, quand il y a du vent, quand il y a du brouillard, quand il pleut, on n'est pas à l'abri d'une attaque. Voilà. Mais du coup, ça faisait partie d'un risque, autant que les vipères, autant que se faire de perdre des brebis, autant de se faire écraser des chiens par les voitures. Et surtout, c'était avant tout trouver de l'herbe pour les brebis. Et c'était surtout ça qui était l'enjeu majeur, quoi. Donc du coup, ça faisait partie d'une des problématiques. Après, j'ai connu un été dans le Mercantour très très dur, parce que j'avais 6 loups qui sont restés 2 fois 3 semaines sur mon troupeau.
Donc c'était une meute là.
C'était une meute qui était installée sur mon alpage, mais du coup elle circule sur 5 ou 6 alpages. Et comme tous les alpages sont équipés en chiens de protection, ainsi de suite, les loups essayent pendant 8-10 jours de tuer des bêtes. Mais quand ils arrivent, quand c'est trop trop dangereux par rapport aux chiens de protection, et hop, ils changent, ils vont essayer de percer les défenses chez les voisins. Donc ça a été dur, mais j'ai des amis qui en perdaient une par jour. Donc sur 100 jours, quand tous les matins il y a un cadavre, c'est très dur, très violent. Nous on est confrontés à la mort en tant que berger ou éleveur, mais n'empêche que quand il faut égorger des brebis, quand on voit des agneaux qui vont crever parce que leur mère vient de mourir et qu'on est en alpage, on peut pas on ne peut pas faire autre chose que laisser mourir des bêtes ou les achever. Voilà, c'est très violent. Donc je sais vraiment, en mon fond intérieur, la violence que ça a de se faire attaquer au quotidien. Après, c'est une des raisons pourquoi je suis parti du Var. J'ai voulu m'écarter aussi de la zone de prédation. Voilà. Bon, il se trouve que je suis arrivé ici en début 2011 et que le loup est arrivé en 2012. J'avais ce bagage de berger du sud. Et moi, je suis arrivé et directement, j'ai mis des chiens de protection. Je garde mes brebis aussi. Et du coup, moi, d'entrée, j'ai une méthode d'élevage qui est basée sur la garde des brebis. Donc, les brebis sont tout le temps gardées, quasiment tout le temps. Les brebis, on n'est pas très loin des bâtiments. Donc, du coup, les brebis dorment en bâtiment. Si, après, je suis plus loin des bâtiments, quand on a fini la garde ou quand elles chôment à midi, on les enferme dans des parcs électrifiés. Voilà. Donc, c'est des filets électriques avec les chiens de protection qui sont dedans et à l'extérieur. La nuit, elles font comme ça. Voilà. Après, quand moi, je restais ici l'été... L'été, ici, on sort les brebis de 20h jusqu'à 2h du matin. Donc, je les garde jusqu'à 2h du matin. À 2h du matin, je les parquais dans les fils électriques. Je dormais en hamac à côté. Et on les relâche à 4h30 du matin, parce qu'il fait tellement chaud sur le Cosmégen, et jusqu'à 8h30. Et puis, de 8h30 à 20h, elle reste dans des fils électriques. Et là, il n'y a pas de problème, quoi. Si le troupeau est adapté, si on sait comment faire des parcs de nuit suffisamment grands pour parer le fait que le loup puisse attaquer aussi, c'est quand même une sécurité pour moi. Mais après, moi, le mode de garde, c'est je comptais pas avoir de clôture. Voilà. Du coup, c'est gardé en permanence. Donc le fait que le loup soit revenu, ça n'a pas bouleversé ma façon de travailler, vu que de toute façon, même s'il n'y avait pas eu le loup, j'aurais travaillé quand même pareil. Après, ça aurait été plus tranquille. Voilà, sachant que là, si on perd des bêtes, on sait qu'elles peuvent se faire manger très très vite, quoi. Et le loup, il connaît parfaitement les troupeaux qui surveillent, et que moi, les deux seules fois où je me suis fait attaquer par le loup, c'est parce que on a oublié des brebis dehors, et que voilà, des brebis sans défense, elles se sont fait manger, quoi. Voilà. Le milieu des Alpes était un milieu très défavorable au loup, extrêmement défavorable. Parce que c'est un milieu qui est très peuplé, qui est très accidenté, où le climat est très rude, où il y a assez peu de faune sauvage. Donc il n'y a que l'hiver où il arrive à s'en sortir, parce que dans les rares zones de montagne où il n'y a pas de neige, il y a une concentration des cervidés, des ongulés qui y sont. Du coup, il a une facilité à trouver des carcasses ou à chasser. Mais c'est un milieu très dur. Et pourtant, c'est là où, en 30 ans, il a réussi à se développer. Mais par contre... La seule barrière naturelle qu'il y avait, c'était la vallée du Rhône, qui, par son étendue, la démographie qu'il y a dessus, c'est ça qui l'a freiné pendant 20 ans. Mais dès lors qu'il a franchi la barrière du Rhône, il arrive dans un milieu qui lui est parfaitement adapté, qui est de moyenne altitude, entre 200 et 1000 mètres, extrêmement boisé, avec une multitude de faune sauvage, que ce soit les rongeurs, que ce soit les ongulés. Et voilà, on sait que c'est un milieu où il va facilement pouvoir se développer, et tout l'enjeu est de réussir à ce qu'il se développe, parce qu'on n'arrivera pas à l'éradiquer, parce que même qu'on soit pour ou qu'on soit contre ou qu'on soit modéré, on n'est que 1% de la population à être exploitant agricole et paysan, et que c'est jamais le monde paysan qui aura gain de cause, faut pas se leurrer. Il y a 99% des gens qui ont une vision du sauvage qui est sûrement idéalisé, sûrement totalement déviant par rapport à la réalité du terrain, mais n'empêche que c'est eux qui ont beaucoup plus de poids que nous. Et du coup, il n'y aura pas d'éradication revendiquée au niveau national, que derrière il y a des lois, et des lois européennes qui nous en empêchent, et il y a très 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 peu de chances que ça change un jour. Et du coup, il faut bien comprendre que ici, c'est une zone où il va pouvoir vivre. Donc même s'il disparaît pendant un an, deux ans, trois ans, qu'on n'a plus d'attaque, il est forcément là. Et du coup, il peut revenir à n'importe quel moment. Et faire un système pastoral adapté pour protéger au mieux, on ne peut pas empêcher les attaques. Mais par contre, si j'avais pas mes patous, si je gardais pas mes brebis, si c'était pas enfermé, je serais vraiment une proie facile. Là, on lui complique au maximum la tâche, pour qu'ils se disent, essayer d'attaquer un troupeau protégé, c'est beaucoup trop dur, et c'est essayer de l'éduquer pour qu'il se nourrisse de la faune sauvage dehors et pas qu'il s'approche des humains et des troupeaux. C'est ça tout l'enjeu. Voilà. Parce que malheureusement, ici, c'est une zone où on ne sait même pas s'il a un jour disparu, parce que tous les derniers loups tués l'ont été dans la Creuse, en Corrèze, ou même en Lozère, hein. C'est il y a 50 ans. Mais rien ne dit qu'il n'y a pas eu des animaux isolés qui sont nourris de la faune sauvage. Voilà. Il y a eu des loups qui ont été écrasés dans le Cantal dès 91. Alors, est-ce que c'est du lâcher ? Mais est-ce que ça peut simplement être un loup naturel qui s'est fait écraser et qui a jamais disparu du territoire ? On n'en sait rien. Enfin, on peut pas savoir en tout cas. Et du coup, voilà, moi je me dis que même si là, depuis 2 ans sur le Cosmégeant, c'est beaucoup plus calme, et ben là, il y a eu des attaques à la Tiole, donc c'est à 35 km à vol d'oiseau. Il y a eu des traces de loups qui ont été repérées sur le Cosmégeant cet hiver au mois de janvier. Donc voilà, les loups ils bougent, ils viennent, ils reviennent, et de toute façon, il y a une telle concentration dans les Alpes que la migration vers l'ouest est toujours d'actualité. Voilà.
Well, I stumbled in the darkness. I'm lost and alone. Though I said I'd go before us. Show the way back home. There's a light up ahead. I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of a train. Got a head full of lightning. Hat full of rain, and I know that I'd stay and never do it again. I love you, pretty baby, but I always take the long way home. I put food on the table and a roof overhead, but I trade it all tomorrow. Instead, watch your back, keep your eyes shut tight. Your love's the only thing I've ever known. One thing for sure, pretty baby, I always take the long way home.
Dissonance avec Renaud David.
je comprends, je suis très à même de comprendre, même moi, de le vivre, le ressenti, la difficulté. On a tous des familles, on a tous des vies, on a tous, voilà. Donc, je peux pas dire on peut vivre, on peut pas vivre, ainsi de suite. Moi, personnellement, ce que je peux dire, c'est que avec des moyens de protection, avec mon système, mais qui me correspond à moi, qui correspond à mes idéaux, à ma vision du métier, à ma vision du rapport à l'environnement et à ma ferme, ça me va. Voilà. Après, si demain il y a 5 loups qui m'attaquent tous les jours pendant un mois, ben oui, je le vivrai très mal, ce sera dur, voilà. Et je serai le premier, si mes chiens protection tuent un loup, ben c'est très bien, je veux dire, c'est le but. Ou si je ferai tout pour que ces loups-là soient abattus. Parce que c'est des loups qui auront un régime alimentaire axé sur l'élevage. Voilà. Mais par contre, un loup qui est sur le Cosmégean et qui mange de la faune sauvage, je vois pas pourquoi moi j'irais l'abattre. Voilà. Ou je pousserais à l'abattre. Voilà. C'est comme tout. Si on parle des serpents, on sait que les serpents sont en voie de disparition. On connaît le rôle hyper important que ça a pour la planète. Il y a énormément de gens qui craignent le serpent, mais qui aiment le côté sauvage du serpent, sa place dans la nature. Par contre, le jour où ils trouvent une vipère dans leur jardin, eh ben, ils ont peur pour leur enfant, du coup ils le tuent. On est là pour défendre un système d'élevage, défendre, moi, le pastoralisme. Il n'y a pas que le pastoralisme, hein. Il y a toutes les petites fermes, il y a tous les gens qui veulent travailler, faire des bons produits, respectueux de la nature, qui aussi veulent avoir une vie de famille, une vie de couple, être serein. Nous, on est pour la défense, enfin, moi, je suis pour la défense des paysans et des modes d'élevage. Donc, du coup, après, il faut rééduquer le loup, qu'il ait peur et qu'il se tienne à l'écart. Donc moi je suis pour l'abattage de loups, vous dire clairement, hein. Je suis pour l'abattage de loups qui viennent attaquer les troupeaux. Après, est-ce qu'on arrivera à l'éduquer ? Le monde paysan est déjà dans une problématique face au réchauffement climatique, face surtout au commerce mondial, aux concurrences déloyales. Il a beaucoup de dérives et de sujets préoccupants à gérer. Et du coup, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour beaucoup. Par contre, moi j'estime que autant quand il y a un problème sur les prairies, Il y a plein de gens qui cherchent comment résoudre les problèmes, comment s'adapter, qu'est-ce qu'il faut changer comme méthode. Bah, vu mon passé de berger, vu mon éducation, j'estime que on peut aussi essayer d'adapter nos systèmes à la présence du loup. C'est pas l'accepter. C'est que si moi j'avais les brebis tout le temps dehors avant, je peux essayer de mettre des patous pour voir quel impact ça fait. Alors après, les détracteurs qui disent que ces moyens de protection ne marchent pas, ils disent ça parce que dans les Alpes, tout le monde a des moyens de protection, et que maintenant, même là où il y a des moyens de protection, le loup arrive toujours à attaquer. Mais s'ils n'avaient pas ces moyens de protection, il n'y aurait plus d'élevage là-bas. Et moi, je sais très bien, j'y ai bossé pendant des années, j'ai bossé avec des gens qui étaient des grands noms du pastoralisme et des éleveurs extensifs. S'il n'y avait pas eu les bergers, les chiens de protection, ça ferait 20 ans qu'ils auraient mis la clé sous la porte. Voilà, ça c'est clair et net. Parce que tu ne peux pas tolérer de perdre 10%, 15% de ton troupeau chaque année. C'est pas viable. Voilà, puis même si on parle pas du stress et tout ce qui va avec. Du coup, voilà, moi je suis arrivé ici, le loup arrive, je fais tout pour limiter, pour l'empêcher d'attaquer mon troupeau. Chacun est libre de voir les choix qu'il peut faire sur sa ferme, jusqu'où il peut aller. Mais j'estime quand même qu'on touche tous un minima, 50% de notre chiffre d'affaires, ça vient des primes de l'Europe, ça vient du concitoyen français. Est-ce qu'on ne peut pas prendre une part de ces aides, plus l'obligation qu'a l'État d'assumer la charge supplémentaire avec le retour du loup, et le fait qu'il soit protégé, et le fait que L'État, pendant très longtemps, a nié la présence du loup, n'a pas du tout fait d'informations, et ainsi de suite. L'État doit assumer des coûts financiers très énormes, et c'est pas à l'éleveur et au monde agricole d'assumer le coût financier monstrueux que ça amène, hein, parce que c'est pas uniquement des brebis qui se font tuer, c'est aussi le temps passé, c'est aussi le changement de système. Moi, du style, il y a 5 ans en arrière, j'avais 4-5 lots de bêtes différentes sur la ferme, j'étais énormément dehors, je triais les brebis un peu maigres, les jeunes, j'ai 3 races, donc je faisais 3 lots de lutte, de reproduction spéciale par race. Quand le loup est arrivé, j'ai simplifié au maximum mon système. J'y avais plus que 2 lots jusqu'à cette année. Un lot qui annule à l'automne et un lot qui annule au printemps. Et l'année prochaine, je passe avec un seul et unique lot qui annule au printemps. Voilà, pour simplifier les choses, pour éviter d'avoir des lots de partout, parce que sinon c'est ingérable. Donc c'est tous ces contraintes-là que ça. Si on se fait attaquer tous les jours, en plein été, où c'est là où on compte sur l'herbe naturelle, gratuite dehors, pour nourrir les brebis, et que le loup nous attaque, qu'on est obligé de rentrer en bergerie l'été et de donner du foin, du coup, c'est tout ça, c'est coût financier. Donc, il n'y a rien de simple dans la question. Moi, personnellement, je suis arrivé ici, j'ai tout mis en place pour le loup. Il m'a attaqué pendant 2 ans, il m'a attaqué très régulièrement. Il n'a jamais réussi à franchir les défenses. Heureusement. Voilà, mais ça aurait très bien pu arriver, je dis pas le contraire. Après, le fait, c'est que le loup arrive, il arrive à tuer une bête, et comme les patous sont là, il n'arrive pas à la consommer. Donc il va essayer de revenir pour la consommer, ou revenir pour essayer d'en tuer une autre, mais s'il se fait trop emmerder au bout d'une fois, deux fois, trois fois, moi j'ai vu 2 fois le loup sur Cosméjean, il m'a attaqué à quelques mètres de moi en pleine nuit, voilà, quand on garde jusqu'à 2h du matin, à chaque fois, c'est passé très très proche de la mort pour le loup. Voilà. Ou pour le patou, voilà. Mais du coup, au bout d'un moment, il est tellement emmerdé qu'il préfère partir. Donc c'est salaud pour le voisin qui, lui, va recevoir le loup, voilà. Mais c'est un peu le principe. Par contre, dans les Alpes, ce qu'il faut bien se dire, c'est que sur les 500 loups qui sont officiellement, après les questions de chiffres et tout, mais même si on dit qu'il y a 500 loups en France, il y en a 450 dans les Alpes. Sur des systèmes qui sont très pastoraux, qui sont dans des endroits encore plus accidentés qu'ici, donc il n'y a quasiment aucune clôture de mise en place. Voilà, beaucoup plus de petites fermes. Ici, on a quand même Aveyron-Lozère, c'est quand même des grandes structures avec pas mal de surfaces de prairies cultivées. Dans le Var, il n'y a pas trop ça, quoi. C'est vraiment essentiellement du parcours. Et du coup, ils n'ont ni les ressources forcément pour payer un berger, ni les ressources pour clôturer, ni les ressources en fourrage pour compenser le fait qu'ils vont moins sur les parcours. Donc, ils sont obligés d'y aller. Ils y sont allés. Et c'est sûr que vu que l'État a laissé faire là-bas, parce que ça fait que quelques années qu'ils bougent avec une brigade, qu'ils ont vraiment augmenté les quotas, qu'ils commencent à prendre conscience qu'il faut limiter le nombre de loups et qu'il faut prélever ceux qui attaquent les troupeaux vraiment fortement. Mais pendant 25 ans, dans le sud, ils ont été livrés quasiment à eux-mêmes. Et les seuls moyens de protection qu'ils avaient, c'était les filets, les bergers et les chiens de protection. Et 25 ans plus tard, avec 500 loups, ils ont réussi à y être. Moi, j'étais berger dans le Vercors. Sur le plateau du Vercors, il fait la taille du Cosméjean, grosso modo, il y avait 27 loups. Quand on voit qu'en 2015, après, officiellement, il n'y avait que 2 ou 3 loups sur le Cosméjean, même si on dit qu'il y en avait 6, 6, ça a été la panique totale, ça a été un carnage total, hein, il y a eu près de 100 bêtes qui ont été tuées sur le Cosméjean. N'empêche qu'il y a plusieurs milliers de brebis qui transhument dans le Vercors avec 27 loups. Au début, ils ont réussi à vivre, ils ont réussi à s'adapter. Ça n'empêche pas les attaques, ça n'empêche pas toutes les problématiques derrière, humains, le carnage, de voir la génétique qu'on a mis des années à construire qui est réduite à néant en une seule nuit. Mais n'empêche qu'ils ont réussi à survivre. Et nous, moi, mon discours, c'est que le but, c'est que le pastoralisme, l'élevage, la paysannerie survivent. Mais on doit l'enjeu de la prédation, pour moi c'est la même que, enfin c'est sur le même degré d'importance que l'adaptation au changement climatique, que qu'est-ce qu'on fait avec le commerce mondial qui est en train de nous dépasser et qui est totalement aberrant. Comment on fait avec le fait qu'il y a 80% de la population française qui vit en ville, qui est totalement déconnectée de la nature, mais nous on y vit. Enfin, et c'est des enjeux comme ça qui font que le monde paysan est en péril. Mais n'empêche que c'est un...
Voilà, le loup, c'est un des problèmes, c'est pas le problème.
C'est pas le problème majeur, quoi. Voilà, ouais. Pour moi, en tout cas. Ouais. Voilà. Après, moi, c'est plus facile de me positionner, étant donné que d'entrée, ma ferme, elle est hyper sujette à la prédation, vu qu'elle est extrêmement boisée, extrêmement accidentée. On est dans la zone du Cosmégen où il y a beaucoup d'avennes, de grottes naturelles, où il peut faire ses tanières. Il y a également énormément de petits gibiers, donc il peut passer 6 mois, 8 mois, 10 mois sans qu'on le voit, et puis bah, l'été, hop, il surgit et il nous tue les brebis, quoi. Donc voilà, moi j'ai pris le pari d'essayer au maximum, voilà, de porter ma vision de l'élevage, et je sais que le loup, ça fait partie des problématiques.
De José Agustín Goytisolo aussi, voici une petite fable. Érase una vez, il était une fois un petit loup très gentil qui a été mangé par tous les moutons. Voilà. Moi, je me demande toujours de quel petit loup il s'agit.
Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés.
Dissonance avec Renaud David.
Moi, j'ai des amis qui sont dans les Alpes qui ont des meutes de 6, 7 ou 7 loups. Ils ont été obligés de mettre 5, 6, 10 patous pour s'en sortir. Ils emploient 2 bergers, ils se ruinent. Il y a des quartiers entiers qui y vont, où ils vont plus. C'est des gens qui étaient proches de la nature et que ça leur fend le cœur. Donc, moi, personnellement, j'ai connu tous les stades. J'ai été confronté aux loups. Je ne dis pas que je suis pour le loup, je dis pas que c'est facile de vivre avec, pas du tout. Je dis seulement que, bah, de toute façon, malheureusement, voilà, entre guillemets, ici, sur notre zone ici, et même en France et même en Europe, voilà, vu que je suis à la commission de prédation, je suis quand même au courant des positionnements de l'Europe sur le loup, il faut pas rêver, il n'y aura jamais une prise de décision d'éradication. Ça, il faut que les éleveurs l'entendent. L'Europe ne tolérera jamais, la France ne le fera jamais. Parce que il n'y a que 1% de la population française qui est agricole. Donc dès lors qu'on a pris ça en considération, et c'est pas mon positionnement à moi, c'est un fait, c'est comme ça, c'est jamais ça ne bougera. Du coup, le loup, il faudra bien cohabiter avec, vu qu'il ne sera jamais éradiqué. Et c'est là-dessus que part la réflexion. C'est que dès lors qu'il n'y aura pas d'éradication, et pourquoi il y en aurait une ? Après, derrière, ça, c'est une autre réflexion. Hein. Mais dès lors qu'on sait que ça ne bougera quasiment jamais, eh ben, il va falloir cohabiter. Et le but, c'est qu'on défende la paysannerie et l'élevage le plus extensif possible, que ce soit sur une ferme avec 10 hectares de pré, où les brebis sont dehors, ou les vaches, ou les chèvres, ou que ce soit des gens qui pâturent 2 ou 3000 hectares chaque année. Le même combat, c'est là-dessus. Quoi. Voilà. Et du coup, bien sûr, qu'on demande tous, et moi le premier, que l'État reconnaisse le fait que sa non-gestion du loup en amont, il y a 20 ans, 30 ans, la non-information, la non-formation dans les écoles de futurs agriculteurs, souvent quand même des mensonges, des chiffres cachés, des attaques qui n'ont jamais été reconnues alors que tout le monde le savait. Moi, en tant que berger, On se fait attaquer. En fait, on apprend un mois plus tard que le loup qui nous a attaqué, il est suivi. Ah. Voilà. Alors, il y en a qui vont hurler que c'est du complot et tout. Moi, c'est pas ma vision. C'est que moi, je suis allé voir les gardes, j'ai discuté avec eux. Et comme ils ont vu que j'étais pas quelqu'un qui allait empoisonner le loup ou le traquer dans la montagne pour l'abattre, ils m'appelaient. Ils me disaient attention, le loup, on sait qu'il va arriver sur la montagne. Du coup, on est trois fois plus vigilants et on passe des moments très durs, très physiques, très épuisants mentalement. Le stress, vous rendez pas compte ce que c'est de vivre dans la montagne ou ici. Quand on sait que le loup, derrière chaque rocher, il peut être, c'est un stress énorme, quoi. Voilà. Et puis surtout, si on passe son temps à protéger les brebis, on le passe pas ailleurs, quoi. Voilà. Mais moi, ma vision de l'élevage, elle est comme ça, elle est d'entrée avec le loup, vu que j'ai toujours travaillé avec des gens que ça fait 20 ans qu'ils sont confrontés au loup. Donc moi, j'étais prêt à ça. Donc je m'attendais à ce que le loup revienne, le loup est revenu, et j'avais le même système avant qu'il revienne qu'après. Donc mon positionnement à moi, c'est que oui, j'essaie de cohabiter avec, parce que il a été là en 2012, il a disparu, il est revenu fortement en 2015-2016. En 2017, on avait quelques indices. Fin 2017-2018, plus de présence. Mais là, déjà, on sait qu'il est revenu, il est par là. Donc un système comme le mien, pour que les brebis soient gardables, qu'elles se suivent, qu'elles accèdent les patous, que les patous, c'est des années d'apprentissage. Donc c'est pas parce qu'il n'y a plus de loup pendant 2 ans que je vais enlever les patous, que je vais arrêter le berger, que je vais me faire des clôtures. Et puis dans 2 ans, le loup est revenu, il faut que je... Non. Je préfère garder mon système, et le système est adapté à ma ferme, où il n'y a quasiment aucune clôture, où c'est du parcours, où je transhume, voilà. Nous, et ça c'est, je pense que tous les syndicats, on est tous d'accord là-dessus, et on demande une énorme prise en charge de l'État, de la reconnaissance du risque que ça amène au monde paysan, et surtout la question c'est de savoir qu'est-ce que veut l'État. Est-ce que l'État veut les fermes des 1000 vaches, des 1000 brebis, du père intensif, ou est-ce qu'il veut des élevages qui amènent des produits de qualité, des produits de terroir, souvent qui dynamisent le territoire, la vente directe, et ainsi de suite, qui entretiennent nos paysages, et nous on est quand même dans le territoire de classement UNESCO dû à la présence de l'élevage qui a façonné les paysages, et si on veut défendre tout ça, si on veut défendre le tourisme qui est lié, c'est aussi à l'État de prendre en charge. Voilà. Il y a d'autres régions d'Europe où on arrive à cohabiter avec le loup, mais c'est pas du tout les mêmes façons de faire. On prend souvent les exemples des Abruzzes. Les Abruzzes, déjà, l'État italien ferme les yeux sur beaucoup de dérives de braconnage et tout, d'empoisonnement, ce que moi je tolère absolument pas. Mais surtout, c'est des zones qui sont très peu touristiques, où il y a encore des fermes très petites, avec des familles plus nombreuses. S'il faut être 2 ou 3 à garder les brebis, ils le font. Mais surtout derrière, il y a eu des dérives. Ils emploient des bergers roumains, bulgares. J'ai rien contre eux. Moi, avoir un berger qui est payé 300 euros par mois au lance-pierre, qui dort quasiment dehors sous les arbres, c'est pas entendable. On est en Europe, c'est pas entendable. Après, il y a l'Espagne. L'Espagne, d'entrée, dans la convention de Berne, elle avait zoné deux secteurs. Elle avait zoné une zone cœur de l'Espagne et un peu dans la Galice où le loup était protégé, le même statut qu'en France. Et par contre, partout en dehors de ces zones, le loup est considéré comme une espèce non protégée. Donc après, nous, ce qu'on milite, et à la conf, c'est aussi qu'il y ait un changement du classement de l'espèce, qu'on ne dise pas que le loup en soi est protégé, non, que le loup sauvage, naturel, reste protégé, moi et la conf, départementale en tout cas, mais aussi nationale à mon avis, on est dans cette optique-là. Si le loup il est naturel, sauvage, qui bouffe la faune sauvage, quand on voit les ravages des rat-aux-pieds, les ravages des sangliers, et ainsi de suite, ça fera pas de mal d'avoir un grand prédateur dans un système naturel qui ne l'est plus depuis longtemps. Voilà. Mais par contre, on veut que le loup qui attaque l'élevage soit déclassifié, pour qu'on puisse le tuer. Voilà. Que l'État mette des centaines de millions d'euros sur la table pour faire les études, pour équiper, pour équiper les éleveurs pour se protéger, et que quand il y a des loups qui sont capturés, endormis, parce qu'il y a un suivi derrière, et ben qu'on étudie son bol alimentaire, et si le régime alimentaire du loup est à 2 ou 3% de prédation, bon, ça peut toujours arriver, c'est la même chose que 2 ou 3% de mortalité sur un troupeau, entre les pattes cassées, entre les accidents, entre les maladies, bon. Mais si ça dépasse les 5% de son régime alimentaire qui est basé sur du naturel, eh ben c'est qu'il y a une déviance et c'est ces loups-là qu'il faut abattre. Voilà. Mais c'est pas éradiquer des loups à l'aveugle. Oui, oui. Parce que le problème du loup, c'est que c'est une société qui est très hiérarchisée et que si on tire des loups à l'aveugle, ben on peut avoir l'effet inverse. Sur le moment, ça va limiter l'impact de la personne qui est ciblée ou des personnes, donc. Humainement parlant, c'est très bien, mais dans les semaines qui suivent, on se retrouve avec des jeunes qui sont totalement perdus. Et si nous, en tant que bergers, quand on est confronté à un loup ou deux loups adultes, entre guillemets, ils chassent, ils tuent proprement, même si c'est pas entendable, ils tuent proprement. Voilà. Quand on arrive le matin, qu'il y a une brebis tuée qui a été consommée, eh ben, on sait qu'on est tranquille pendant 10 jours, 15 jours, que le loup il a mangé, il y a une brebis tuée. Mais quand on est confronté à des jeunes qui ne savent pas chasser, mais c'est là où on voit un massacre de 10, 15, 20 brebis tuées, quasiment aucune de bouffée, voire aucune de bouffée, et la moitié qu'il faut qu'on égorge ou qu'on tue nous-mêmes, enfin, c'est une violence pas possible, et c'est ça qui fait peur, quoi. Voilà.
Tu es membre de la Confédération Paysanne. Est-ce qu'il y a une commission loup à la Confédération Paysanne? Est-ce que ton discours est entendu? Est-ce que c'est aussi le discours de la Confédération?
Alors du coup, moi je suis membre de la commission prédation nationale, comme beaucoup. Hein. Enfin, je veux dire, n'importe quel paysan adhérent de la Confédération Paysanne peut être membre des commissions. Hein. Il n'y a pas du tout de hiérarchie. Voilà, c'est le but de la Confédération Paysanne, c'est que ce soit la base qui fassent vivre le syndicat, et c'est pas la tête des dirigeants qui imposent leur vision. Donc après, il y a eu une position du national qui s'est actée contre le loup, parce que la prédation ne peut pas être conciliable avec l'élevage. Et ça, c'est aussi notre position à nous, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Par contre, après, chaque département est libre de prendre ses positions, et nous, dans notre département, on n'est pas pour l'éradication du loup. Voilà. Mais c'est le même discours. C'est pour une gestion. Ouais. Mais ça relève, étant ancien écologue, même si je n'ai pas fait 20 ans d'écologie dans les bureaux, mais ça revient de la même problématique, des vautours ici, des chamois en montagne. C'est que, du coup, il faut bien comprendre que nous, ici, on ne veut pas éradiquer le loup, mais par contre, on est là pour de la défense des paysans et le fait qu'ils puissent vivre. Après, il y a des gens, et c'est aussi ça la dérive du monde actuel, qui sont entrés dans la productivité à outrance, dans la pollution à outrance, dans la consommation d'aliments extérieurs sur les fermes, et c'est pas du tout la vision de l'élevage que nous on défend. Ah, après, humainement parlant, si ces gens-là sont impactés par le loup, je suis autant touché que pour quelqu'un lambda. Mais quand même, c'est des systèmes qui sont allés vers de l'intensif, et plus on va vers l'intensif, plus on se déconnecte de notre territoire, et plus le moindre petit pépin dans le rouage a des conséquences graves. Mais c'est aussi pour ça. Nous, on estime que la prédation, ça pourrait être un bon moyen pour remettre sur la table beaucoup de dérives qui ont eu lieu dans l'élevage depuis des dizaines d'années. Voilà, ce serait un bon moyen pour remettre à plat l'écologie, remettre à plat la place de l'élevage dans la société française, le regard qu'ont les citoyens sur l'élevage, et ainsi de suite.
Coming home, and I'm treasure in the barbershop line, lost at the bottom of the world. Satchel Puddin' and Lord God knows, sitting by the fire with a busted nose. That fresh egg yeller is too damn rare. Got the white parts perfect for slicking down your hair. And I'm lost, and I'm lost, and I'm lost at the bottom of the world. I'm handcuffed to the bishop in the barbershop line. I'm lost at the bottom of the world. Blackjack Ruby and Nimrod King, the moon's the color of a coffee stain. Jesse Frank and Bertie Joe. Who is the king of all of these folks? And I'm lost, and I'm lost, and I'm lost at the bottom of the world. I'm handcuffed to the bishop in a barbershop line. I'm lost at the bottom of the world. Face wrong on tilapia fish cakes and fried black swan, razor weed onion and peacock squirrel. And I dreamed all night about a beautiful girl. And I'm lost, and I'm lost, and I'm lost. Bottom of the world. I'm handcuffed to the bishop and the barbershop line. I'm lost at the bottom of the world. He balanced a diamond on a blade of grass. And I woke me up with a cardinal bird. And when I want to talk, he hangs on every word. And I'm lost, and I'm lost, and I'm lost. The bottom of the world. Bishop and the barbershop line. I'm lost at the bottom of the
Dissonance avec Renaud David.
si nous en Lozère en 2015-2016, on s'appelait dès qu'on entendait le loup, dès qu'on le voyait ou dès qu'on savait qu'on s'était fait attaquer, vite on communiquait au maximum pour que les gens sachent où il est présent. Mais un loup, ça peut faire 10, 20, 30 km dans la nuit. Donc il peut être chez moi un soir et le lendemain matin attaquer au bout du Cosmé-Jean. Donc dès lors qu'on sait qu'il y a de la prédation sur Cosmé-Jean, on y pense tout le temps et on peut se dire que à chaque minute on peut se faire attaquer.
Et vous le communiquez aux gardes et les gardes vous communiquent aussi?
Eh ben non, ça par contre c'est énormément dommage. C'est moi ce que je milite et ce que j'ai répété au nom de la Confédération paysanne lors de la venue du ministre de l'Agriculture et après lors de la venue du préfet Doublet, donc qui était aussi en Aveyron derrière. Je lui ai dit que voilà, c'était si on veut que ça se passe mieux, que faire apaiser, c'est pas normal que on laisse à la fois toute la charge de discussion sur le loup, sur la prédation, en fait, qu'on soit pour, contre, qu'on essaye à s'adapter, qu'on n'y arrive pas ou qu'on veut pas, tout est mis sur les épaules des paysans. Comme si c'était au monde agricole de gérer tout seul et de trouver des solutions tout seul à une problématique qui vient pas du monde paysan à la base. Donc déjà ça c'était le premier truc, et surtout c'est à l'État français de prendre en charge. Nous on a appris quand même, après faut mettre des pincettes parce que j'ai aucun document qui l'atteste et je sais pas si c'est vraiment vrai, mais apparemment il y aurait quand même un budget de 300 millions d'euros par an sur la grande question de la prédation, qui englobe tout, hein, qui englobe l'essence pour les voitures, enfin jusqu'aux balles de fusil, voilà. Là-dessus, il y a 35 millions d'euros qui est versé au titre du plan loup en aide pour la garde, les chiens de protection, les clôtures. Donc ça fait quand même une grosse enveloppe qui est pour le fonctionnement des ministères, de plein de choses. Et il le faut, sûrement. Si elle y est, c'est qu'il la faut. Mais quand l'État français fait un porte-avions à 1 milliard d'euros, s'il doit mettre 500 millions d'euros par an, au nom de l'environnement, au nom de l'agriculture, au nom du retour du sauvage en France et comment est-ce qu'on fait, au nom de la lutte contre les incendies, parce que les milieux se ferment et que l'élevage est un moyen très, très fort pour entretenir les paysages et lutter là-dessus, il faut aussi que l'État prenne en considération à quel moment il faut qu'il mette de l'argent sur la table pour aider à gérer la prédation. Moi, personnellement, j'ai aucune solution. Je dis seulement que mon système, jusqu'à maintenant, il me convient. Voilà. Mais si mon voisin à côté, il ne veut pas garder, ou bien il n'a pas les moyens financiers pour payer un berger, il fait comment? Voilà. Et ça, le problème, c'est que l'État essaye de nous dire, allez-y, chacun d'entre vous, débrouillez-vous. On vous donne quelques miettes financières, quelques solutions, et c'est à vous de vous adapter. Mais après, c'est aussi à l'État français de nous amener les réflexions, de faire les études. C'est pas les paysans qui vont faire des grandes thèses, savoir est-ce que tel machin ça marche, quel machin ça marche pas. C'est ça qui est compliqué. La gestion du loup, on parle de 35 ans. Quand il y a quelque chose qui doit bouger, c'est des mois et des mois de réflexion. Mais quand un éleveur lambda se fait attaquer, lui, c'est chaque heure de la journée et en 2, 3, 10 jours sur sa ferme, ça peut être soit le massacre, soit la panique totale, soit une catastrophe financière et humaine totale. Donc nous, on demande ce qui est des réactions d'urgence, des plans d'urgence, des moyens et des pistes de protection données en urgence. Et l'État, souvent, nous répond par des pas de temps de plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est ça qui crée les tensions qu'on a actuellement, pour moi. C'est que nous, c'est tous les jours les brebis qu'elles mangent. Tous les jours, on est confronté au stress, à la prédation et à d'autres choses. Hein. Mais quand tout se cumule l'été, quand il n'y a pas d'herbe, qu'il y a la sécheresse, quand on est loin de la PAC, donc on n'a pas plus forcément de rentrée financière, que en plus il y a la prédation, et c'est en quelques jours qu'on va avoir une solution. Et quand l'État français nous répond oui, on étudie ça et on se revoit cet automne et on vous donne. C'est pas entendable, quoi. Voilà. Et c'est ça les problèmes. Je sais aussi qu'il y a des systèmes qui refusent d'essayer de mettre des bergers ou des chiens de protection. Parce que accepter ces moyens de protection, c'est accepter le loup. Et ça, c'est un discours qui est de fait, hein, voilà. Mais il est loin d'être nouveau. Ça fait 30 ans dans le Var, il y avait les mêmes discours. Et au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, tous, ils sont passés aux moyens de protection. Parce que c'est pas une garantie de pas se faire attaquer, c'est la seule solution avec les moyens actuels que l'État nous propose, hein. Voilà. Et ben de survivre. Et nous, notre but, et moi personnellement, c'est que on survive aussi, quoi. Voilà. Et on survive à la sécheresse, qu'on survive à la prédation, il faut qu'on survive. Donc si l'État, il faut que l'État nous fournisse un panel monstrueux de techniques, de moyens financiers, de moyens humains, pour que, en fonction de la diversité des hommes et des femmes et des fermes qui existent, que chacun arrive à puiser dans un panel énorme pour les solutions qui lui correspondent, en tant qu'élevage, en tant que financier, en tant qu'humain, voilà. Et c'est là la problématique, c'est pour l'instant on a trois mesures, les chiens, les bergers ou les clôtures. Et c'est tout.
Merci beaucoup Renaud. La programmation musicale est détaillée sur notre page internet et bien entendu cette émission y est téléchargeable et podcastable à votre guise.
Cette émission est rediffusée sur nos ondes
le mercredi 26 juin à 14h et le samedi 29 juin à 16h.
Salut
et fraternité.